autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ? Comment la science infuse ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver autour de notre première table ronde de l'année et même de la décennie avec nos consoeurs et confrères de la presse scientifique venus comme chaque mois, vous le savez, chers amis auditeurs, avec quelques exemplaires de leur magazine pour vous les faire gagner, histoire de bien commencer cette année qui s'annonce d'ores et déjà très martienne. Nous sommes en direct avec Carole Châtelain de Science et Avenir. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Philippe Hénarejos de Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe Bajot, oui, un autre Philippe de la recherche. Bonjour Philippe.
Bonjour à tout le monde.
Et Thomas Cavalier-Foll de Science et Vie. Bonjour Thomas.
Bonjour à tout le monde.
Ensemble, nous allons remonter à l'origine du temps, rien que ça, enfin on va essayer, tenter aussi de percer les mystères du Soleil, notre étoile, nous interroger entre info et intox sur les manipulations génétiques en cours, après un détour par le Sénégal en pays bédique à la recherche de bactéries perdues. Microbiote contenu tient autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Bienvenue ici et maintenant. Is there life on Mars? Et oui, bienvenue sur Mars en cette année 2020 qui s'annonce déjà très très martienne avant même le lancement cet été de la mission Mars 2020 de la NASA. Une équipe de chercheurs français et américains viennent d'annoncer avoir découvert un continent caché sur Mars. Alors avant d'avoir vos explications, vos réactions autour de cette table sur ce nouveau continent martien, je note avec grand plaisir que ce continent caché sur Mars a été mis en évidence par une équipe de chercheurs français et américains menée par un planétologue français que nos auditeurs connaissent bien, Sylvain Boulet du laboratoire GEOPS de l'Université Paris Sud, qui a aussi été l'un des membres du jury de notre concours « Pourquoi viser la Lune ?». Alors j'en profite aussi pour saluer Christian Baba, Alomé Otogo, notre lauréat de la lunette astronomique, de le remercier hein, non seulement pour ses vœux de bonne année qu'il m'a envoyé, mais surtout pour le formidable travail de vulgarisation de l'astronomie qu'il mène au Togo. Bravo Christian, bravo à tous ceux qui tentent de faire émerger l'astronomie sur le continent. On ne lâche rien. Et je te le confirme, Christian, on prépare un nouveau concours pour cette année martienne. Donc, mais on vous en dira plus un peu plus tard, quand on en saura un peu plus nous-mêmes. Philippe Hénarejos, vous avez déjà réagi hein, sur le site de Ciel et Espace à ces découvertes d'un continent caché sur Mars.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de Mars en général, on parle de la recherche d'eau et de vie. Et on s'intéresse assez peu à l'histoire très primitive de la planète Mars. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que ces chercheurs-là, qui avaient déjà fait une publication précédente en 2016, à la suite de cette publication, se sont dit « Tiens, il y a quelque chose de bizarre dans la morphologie de l'hémisphère sud-martien, etc. » Alors, ils ont fait des modélisations, des travaux pour essayer de voir ce que pouvait être la croûte de Mars avant qu'il y ait tous les grands impacts qui ont eu lieu pendant toute l'histoire du système solaire, avant que les grands volcans martiens, vous savez que Mars abrite les plus grands volcans du système solaire, avant que ces grands volcans ne s'érigent et donc viennent modifier la surface martienne. Et à force de travaux comme ça, ils ont découvert qu'il y avait une zone dans l'hémisphère sud qui était plus épaisse que le reste. Et cette épaisseur, il l'attribue au fait que c'est sans doute une espèce d'embryon de continent comme ceux que nous connaissons sur Terre. C'est-à-dire que ce sont des roches en fait différenciées par rapport à des roches volcaniques hein, qui sont de nature différente. Et donc, ils ont en fait découvert que probablement, ce qu'on supposait déjà avec l'histoire de vie, etc., mais que Mars avait une histoire géologique, à tout le moins à ses débuts, qui vraiment ressemble beaucoup à celle de la Terre. Alors on sait bien que Mars est plus petite que la Terre, elle s'est refroidie plus vite, etc. Mais au début, il semblerait que les mêmes processus géologiques se soient amorcés sur Mars comme sur la Terre. Alors après, le destin a changé, mais c'est peut-être un indice. Et ces chercheurs-là sont en train d'explorer une époque autour de, il y a 4,2 milliards d'années, que finalement, peu de chercheurs investiguent sur Mars. On cherche les traces d'eau vers 3,8, 3,5 milliards d'années. Et là, ils sont en train de constater que l'histoire de Mars est sans doute un petit peu plus complexe, en tout cas l'histoire primitive, que ce que l'on croyait.
Philippe Pajot, ça vous inspire quoi, ce continent caché ou cette histoire, cette préhistoire de Mars finalement ?
Oui, alors c'est vrai que cette reconstruction de Mars, il y a 4 milliards d'années, est très intéressante. Ce qu'on a vu, effectivement, c'est ce bloc
plus léger qui pose question, parce que quand même, on s'est dit, Mars, il n'y a jamais eu de tectonique. En tout cas, c'est tout
pas de tectonique des plaques, oui.
Pas de tectonique des plaques, c'est ce qu'on pensait. Et là, alors, les chercheurs ne vont pas jusqu'à dire qu'il y a eu de la tectonique, mais ils disent que ça relance le débat et ça pose question. Et par ailleurs, effectivement, Violaine Sauter, qui est également une des co-autrices de cet article,
spécialiste de Mars,
a trouvé probablement du feldspath sur Mars, un minéral qui suggère justement une différenciation avec du magma, un magma riche en silice qui pourrait préfigurer cette ébauche de continent. Et donc, on peut imaginer qu'il y a eu sur Mars une sorte d'océan magmatique, peut-être pas à l'échelle complètement de la planète, mais à une échelle localisée, et où s'est formé cet embryon de continent il y a 500 millions d'années.
Alors, c'est intéressant parce que ces roches-là dont on parle actuellement, elles ont été identifiées par Curiosity. Et Curiosity se trouve, par chance, en bordure de ce continent. Donc, il est peut-être même dans l'épaisseur de ces strates. Oui. Et donc, si ces roches se confirment, parce que c'est toujours compliqué avec Curiosity, il n'a pas forcément tous les instruments pour pouvoir vraiment dire c'est telle et telle composition. Mais en tout cas, si ça se confirme, on aurait peut-être là, sous les bras et sous les roues de Curiosity, les roches qui confirment que c'est un embryon d'un continent, en tout cas. Mais c'est une affaire à suivre.
Affaire à suivre toute l'année. Carole Châtelain, qu'est-ce que vous en attendez d'ailleurs de cette année? Assez martienne, quand même.
Oui, c'est ce que vous avez dit. Il y a la mission Mars 2020 de la NASA, mais il y a aussi une mission européenne, ExoMars, qui va également partir. Alors, le problème des Européens, c'est que pour l'instant, il rencontre des difficultés pour mettre au point les parachutes qui devront ralentir le rover qui se
posera. Quand il va atterrir
voilà,
sur Mars.
Pour l'instant, les parachutes se
déchirent. Enfin, amartir, je ne sais pas comment on dit.
On peut dire atterrir.
D'accord. Oui.
Et les Européens ont fait appel à la NASA même, qui apporte son aide. A priori, les tests sont en cours. On devrait pouvoir résoudre cette affaire, mais c'est chaud.
Chaud sur Mars. Allez, on revient sur Terre autour de la question comment la science infuse et se diffuse. Un des autres grands sujets de l'année et de la décennie à venir se cache dans notre microbiote et dans les milliards de bactéries qui le constituent. Alors comment favoriser la plus grande diversité bactérienne possible? Pourquoi c'est aussi une piste pour développer de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments à partir de nouvelles bactéries? Des biologistes français eux aussi du MIT, dans le cadre d'un projet de recherche international inédit, sont partis sur le continent africain, notamment pour collecter des échantillons de microbiote intestinal auprès des populations rurales, encore peu touchées par le mode de vie moderne. Reportage insolite, c'est le moins qu'on puisse dire, à découvrir dans Science et Avenir de ce mois de janvier, Carole Châtelain. Alors avant de suivre votre reporter, Cécile Cournot, au Sénégal, en pays bédique, à la recherche de bactéries perdues, je propose de commencer par partir de l'autre côté du continent, chez les Hadza de Tanzanie, dont le microbiote, plus exactement les fekes, font elles aussi l'objet de toutes les attentions du chercheur Jeff Leach dans ce reportage d'Arte, pas si ragoûtant que ça.
Les Hadza sont super intéressants car ils vivent dans une partie du monde qui a donné naissance à l'espèce humaine. Ça veut dire qu'ils sont peut-être toujours exposés aux mêmes microbes que ceux auxquels les humains étaient exposés il y a des millions d'années.
Il faudra des mois et de nombreuses discussions autour du feu pour convaincre les derniers chasseurs-cueilleurs Hadza que leurs excréments sont précieux pour la recherche. La confiance installée, celui que la tribu a surnommé Dr Mavi, Dr Merde en swahili, fait de multiples prélèvements. L'analyse du microbiote des Hadza livre un verdict sans appel.
En étudiant les populations occidentales, on trouve X espèces de bactéries. Mais chez les Hadza, ce nombre est beaucoup plus élevé. Ils ont presque deux fois plus de diversité. Alors pourquoi les Hadza ont-ils cette extraordinaire diversité de microbes dans leurs intestins et pas les occidentaux?
Autant de questions qui intéressent donc de plus en plus les chercheurs, comme ces deux biologistes du MIT, que votre envoyé spécial pour Science et Avenir, Carole Châtelain, a suivi en pays bédique, à 700 km, même plus de 700 km de Dakar, à la recherche des bactéries perdues, des chercheurs qui n'hésitent pas à mettre les mains, aller dans la merde, on dit le mot.
Ah bah, tout à fait. Donc effectivement, Cécile Coumeau s'est rendue sur place pour voir comment on opérait ce projet totalement inédit du MIT, qui est le fameux laboratoire aux États-Unis. Il se trouve que là, ce sont des chercheurs français qui travaillent sur ce projet. Et le projet, il est extrêmement ambitieux, puisque d'ici 2021, il a l'intention de visiter plus de 30 pays. Plus de 11 ont déjà été visités.
Donc, sur tous les continents.
Sur tous les continents, à la recherche justement de microbiotes préservés encore des modes de vie occidentaux. Parce que comme vous l'avez dit, alors déjà peut-être qu'on peut rappeler ce qu'est un microbiote.
Oui, bien sûr.
Chacun d'entre nous, notamment dans notre microbiote intestinal, qu'on appelait autrefois la flore intestinale, mm-hmm. Nous hébergeons plus de 100 000 bactéries, ce qui fait un poids d'environ 1,5 kg. Nous avons 1,5 kg de bactéries chacun dans notre
intestin. D'hôtes, de tout petits hôtes.
D'une variété. D'une extraordinaire variété d'espèces. Et les chercheurs constatent que cette variété, effectivement, est très attaquée dans notre mode de vie occidental. On a des problèmes d'obésité, de diabète, etc. Et que la flore intestinale, le microbiote, est concerné par ces. Et peut-être à l'origine, d'ailleurs, de ces maladies. Donc, l'idée, c'est d'aller voir des populations qui sont préservées de ces modes de vie pour prélever déjà leur microbiote. Alors, ça passe par, effectivement, un prélèvement d'excréments. Alors, ça se fait évidemment dans des conditions tout à fait scientifiques et c'est extrêmement préparé en amont parce que vous imaginez.
Il faut convaincre aussi les populations parce qu'elles voient débarquer des chercheurs.
Exactement, donc tout ça est préparé des mois à l'avance par les autorités sanitaires sur place. Mm-hmm. Les populations sont totalement volontaires, ce qui est le cas des Bédiques, c'est un peu moins de 1% de la population du Sénégal. Et ensuite, une fois que tout ça est bien au clair, les scientifiques vont sur place et prélèvent des échantillons d'excréments.
Pour les analyser. Et du coup, en l'occurrence, chez les Bédiques, au Sénégal, ce n'est pas une telle diversité de bactéries, mais ce ne sont pas les mêmes, en fait.
Non, parce peut-être. Que leur alimentation est assez monotypique, mm-hmm. notamment faite de fogneaux. Donc, il y a des bactéries tout à fait originales. Depuis le début du projet du MIT, il y a plus de 16 000 bactéries qui ont été recueillies, identifiées, dont 230 que les chercheurs ne connaissaient pas. Mm-hmm. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre toutes ces bactéries dans une biobanque à la disposition de l'ensemble des chercheurs des mondes entiers. Tout ça est entouré d'un code éthique, puisqu'il y aura évidemment, si jamais il y a la mise au point de médicaments, un retour en quelque sorte sur investissement, si je puis dire.
Voilà, donc pour une fois, ça bénéficiera aussi aux populations concernées.
Exactement, tout ça est extrêmement cadré. Le MIT y a tenu pour éviter toute accusation qu'on peut bien imaginer.
Bien sûr.
Alors, quelles sont les stratégies ensuite? Eh bien, les stratégies pour mettre au point de nouveaux médicaments, ça serait de comparer le microbiote de personnes saines à celle donc, de cette biobanque, de personnes qui sont préservées pour voir tout simplement la différence. Ensuite, ça serait de tester ces bactéries qu'on aurait découvertes sur des personnes pour voir ce que ça peut donner sur certaines maladies, parce qu'on sait qu'il y a des maladies qui sont déclenchées par un certain type de bactéries, donc on peut
et d'autres qui peuvent essayer, être guéris, soignées,
voilà, éventuellement soignées par des bactéries. Et puis on peut aussi essayer des cocktails, des cocktails de bactéries. Donc ça, c'est vraiment on met en place cette banque et puis on verra ce que les chercheurs pourront en retirer.
À suivre au cours de toute cette décennie, reportage à la recherche des bactéries perdues au Sénégal. C'est à lire sans même avoir à se boucher le nez dans Science et Avenir de ce mois de janvier, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, quelques exemplaires à vous faire gagner, que l'on vous conseille de lire, allez peut-être après votre repas à l'African Fast Food d'Alun Wad sur RFI. African Fast Food, dominant, thankful for the saka saka. Drink my water, coconut water, drink it, mulu mulu. African fast food, coming and thankful for the saka saka. Drink my water, coconut water, drink it, mulu mulu. food, africaine fast food. Et oui, c'est le nom de ce morceau autour de la question comment la science infuse et se diffuse sous le soleil de RFI. On s'interroge maintenant précisément sur le soleil, notre étoile et sur son influence réelle sur la Terre avec vous, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace. Et avant le lancement du programme européen Solar, Orbiter, on ne résiste pas tout d'abord à l'appel du soleil, surtout quand on est un singe en hiver.
J'ai tout de même pas mal voyagé. Ce qui me permet de vous dire, en connaissance de cause, que votre patelin est tarte comme il n'est pas permis. Et qu'il y fait un temps de merde.
Je suppose que monsieur plaisante.
Absolument pas.
Vous savez combien il y a eu de jours de soleil en juillet? 17.
Soleil de mes fesses. Vous savez pas ce que c'est que le soleil? Vous l'avez jamais vu, vous? Sale soleil.
Un singe en hiver, dialogue de Michel Audiard dans ce film d'Henri Verneuil. Alors vous l'avez vu, hein, le soleil, Philippe Hénarejos, dans Ciel et Espace, avant le lancement donc de Solar Orbiter, vous vous êtes interrogé sur l'influence réelle du soleil, notre étoile, sur la Terre.
Oui, parce que, comme ça a été dit dans l'extrait, les astronomes l'ont vu, le soleil, mais ils n'y comprennent pas grand-chose.
Et
en fait,
c'est
encore.
Ça. Hein.
Alors, c'est paradoxal parce que c'est quand même l'étoile la plus proche.
La nôtre, celle
voilà,
qui nous fait vivre.
Elle est observée, c'est la seule qui ne soit pas un point. Hein. Il ne faut, pas forcément de très puissants télescopes pour en voir la surface. Et justement, cette surface, quand on l'observe depuis ces dernières années, peut-être un peu plus de 10 ans, on s'aperçoit que les phases d'activité qui transpirent normalement à sa surface, qui se traduisent par des taches, semblent un peu déréglées. Alors ça a posé question. Normalement, il y a un cycle d'activité du Soleil. Tous les 11 ans, il y a de plus en plus de taches jusqu'en paroxysme, et puis ça retombe, et puis ça se recharge, et ça recommence comme ça. Sauf qu'on observe depuis 2007 que ce cycle-là, il a l'air déréglé comme ça. En fait, on s'aperçoit en connaissant, à force d'observer depuis des décennies, que ce cycle n'est pas de 11 ans exactement, mais il varie entre 9 et 13 ans. Alors 11 ans, c'est la moyenne. Donc des gens se sont un peu émus en disant « Ah, mais il n'y a plus du tout de tâches, ça dure, le cycle ne reprend pas, est-ce que ça annonce pas quelque chose qui va changer ?» Et en fait, les chercheurs, quand ils regardent dans leurs archives, ils s'aperçoivent que ce genre de mésaventure est déjà arrivé, et ils essayent de faire des prédictions. Alors ils essayent de comprendre ce qui se passe. Ce cycle est intimement lié à tous les mouvements de matière qu'il peut y avoir à l'intérieur du Soleil. Mmh. Le Soleil, c'est une boule de gaz, alors très comprimée, hein, au centre, il y a 15 millions de degrés, mais il y a des mouvements qu'on dit convectifs, c'est-à-dire en gros, comme dans une casserole d'eau, quand vous mettez le feu en dessous, l'eau chaude du fond de la casserole remonte et ça bouillonne, etc. Donc il y a ça qui se passe à l'intérieur du Soleil, et ces mouvements, comme ça met en jeu de la matière qui est ionisée, qui a perdu des électrons, etc., donc électrisée, ça fait que le champ magnétique joue un rôle énorme dans ce cycle, en fonction de l'état d'avancement du cycle.
Donc on en est au constat, en fait.
On tente des prédictions. Alors, sur le cycle actuel, c'est le cycle 24, puisqu'on observe les cycles depuis 1755. Donc, on n'a que 24 cycles. Le Soleil, il y en a beaucoup plus que ça. Et les gens se sont hasardés à faire des prédictions, pensant avoir compris. En fait, les prédictions n'étaient pas du tout ça. On avait prédit que le Soleil allait devenir calme, qu'il n'y aurait plus rien. Puis finalement, non, il y a eu deux pics au lieu d'un seul, des choses comme ça.
Donc c'est vraiment le point d'interrogation,
c'est
toujours
vraiment le point
autour
d'interrogation.
Du Soleil. Hein.
Et c'est pour ça qu'on continue à envoyer des sondes autour du Soleil. Il y a une sonde américaine qui est déjà partie, qui s'appelle Parker. Et en février, il y a une sonde européenne qui va la rejoindre. Et les deux vont travailler ensemble parce que la sonde européenne va changer son orbite progressivement pour atteindre des hautes latitudes, enfin, en gros, passer quasiment au-dessus des pôles du Soleil, qui est une région que, par définition, on ne voit pas, puisque nous, on est dans le plan, en gros, équatorial du Soleil. On le voit depuis l'équateur. Le pôle, on le voit de manière rasante. On va essayer de passer au-dessus pour voir tous les mécanismes de vent et de magnétisme solaire, puisque l'essentiel du champ magnétique général du Soleil sort des pôles, comme c'est le cas pour la Terre. Donc, cette sonde va traverser cette région-là.
Il va arriver à la traverser et en ressortir
Oui, parce qu'elle sera à une distance certes proche, mais encore respectable. Et les scientifiques essaient toujours de comprendre de près le fonctionnement de cette étoile qui est très proche de nous, Les autres étoiles, pour les étudier, ben, c'est un peu difficile. Ça commence, hein. On commence à étudier aussi les mêmes choses sur d'autres étoiles, mais c'est quand même loin, c'est ténu, il faut poser longtemps, etc. Là, on en a une sous la main, pour ainsi dire, et les astronomes avouent qu'il y a quand même beaucoup de mystères. Ils ne savent pas comment, par exemple, là, ça fait des années que ça dure, comment la couronne, qui est l'atmosphère juste au-dessus de la surface solaire, est chauffée beaucoup plus, genre 1 million de degrés, alors que la surface est à 5000, 6000 degrés. Donc comment ces phénomènes se font? On essaie aussi de prédire les tempêtes solaires qui sont liées à cette activité de cycle dont je vous parlais. On essaie de comprendre comment la dynamo solaire fonctionne à l'intérieur, comment ce cycle se fait, comment le champ magnétique s'entortille, puis se casse, puis se refait, pour pouvoir prédire, parce que ça a des conséquences aussi sur la Terre, notamment avec les activités spatiales, et pas que, électriques aussi.
Les tempêtes solaires.
Oui, en 1989, il y a eu une grosse tempête qui a fait un blackout en Amérique du Nord, qui est près du pôle magnétique terrestre. Donc tout ça, on essaie de le prédire. On n'en est pas là. Et puis aussi, on regarde le Soleil à travers le filtre de ce que nous faisons sur Terre, puisqu'on parle beaucoup du réchauffement climatique. Et il y a encore des gens qui disent « Ah, mais si ce ne serait pas le Soleil, on dit s'il est plus faible, etc. » Et là, le constat est quand même assez clair. L'irradiance solaire, c'est-à-dire la quantité d'énergie reçue du Soleil par la Terre, est mesurée depuis des décennies par différents satellites. Et celle-ci varie très très peu. Il y a des variations. Et ces variations, elles ont été étudiées quand même. Il fallait voir si le Soleil n'était pas coupable.
En partie responsable du changement climatique, c'est
non,
ça, c'est ça
non,
la question.
Elles ne le sont pas du tout, justement. Ces variations entraînent des petits changements régionaux, en fait. Mais globalement, sur l'augmentation des températures, clairement, le Soleil est innocent.
Donc le soleil est innocent voilà. dans le réchauffement climatique. On peut continuer à le vénérer, à vénérer notre étoile.
Oui, voilà,
c'est pas le soleil, c'est nous, responsables.
On pourrait espérer qu'il varie et que finalement il vienne rattraper toutes nos erreurs ici-bas.
C'est
en
ça.
Réalité, ce qu'on sait aussi, c'est que le soleil est une étoile très stable. Donc n'attendez rien de lui. Il n'a rien fait, mais il ne fera rien pour nous sauver.
C'est ça, c'est à nous de le faire. Allez, quelle est la réelle influence du soleil sur la Terre? Dossier complet et avec des points d'interrogation, bien sûr, à lire dans Ciel et Espace, où nous avons aussi un exemple à vous faire gagner. Chers amis auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Et que les meilleurs gagnent. Here comes the sun, the Beatles sur RFI.
Here comes the sun, here comes the sun. Say it's all right.
Sur RFI, Here Comes the Sun, autour de la question comment la science infuse et se diffuse sous le soleil exactement. Et dans les pages de ce numéro de Science et Vie, vous vous interrogez carrément, vous n'avez pas peur, Thomas Cavaillé-Foll, sur l'origine du temps. Est-il possible de remonter le fil du temps? Question centrale, essentielle, existentielle, j'ai envie de dire, que les physiciens osent à peine chuchoter dans cet extrait de l'excellent film documentaire Quel temps font-ils, écrit par Étienne Klein et Marc Lachaiserais.
D'où vient le temps cosmologique qui nous permet de retracer l'histoire de l'univers?
Sans doute la question la plus difficile de la physique et de la cosmologie.
Vous avez découvert le Big Bang?
En fait, Big Bang ou pas, les physiciens reconnaissent l'impossibilité d'extrapoler les lois de la physique indéfiniment vers le passé.
Pourquoi ?
Ça conduirait à une impasse. Quand tu remontes vers le passé, l'état de l'univers change. En remontant assez loin, l'état est tellement différent de celui d'aujourd'hui que les lois de la physique telles que nous les connaissons ne s'appliquent plus. Elles entreraient en conflit les unes avec les autres.
Alors on ne sait rien sur l'origine de l'univers.
Ni sur l'origine du temps.
Pourtant l'histoire de l'univers a bien dû avoir un début.
Pas si sûr, parce que cette histoire, c'est l'histoire même du temps. Or, si la question du temps nous dépasse, la question de l'origine du temps nous dépasse encore plus.
Enfin, quelque chose existe. Il a bien fallu que ça apparaisse.
Le problème, c'est qu'on ne peut pas le concevoir dans un sens ordinaire. En particulier, pas dans un sens chronologique. On ne peut pas dire, par exemple, que l'univers est né à tel instant. Parce qu'avant que l'univers existe, le temps n'existait pas non plus.
Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Pas grand-chose.
Il y a tout de même quelques petites nouvelles choses à dire sur le temps et sur cette quête formidable des physiciens pour remonter la flèche du temps jusqu'aux origines. Avec cette première en laboratoire, Thomas Cavaillé-Foll, un instant avant le Big Bang, on a vu naître le temps. C'est le titre du dossier que vous consacrez à cet énorme sujet, cette énorme question dans Sciences et Vie.
Tout à fait, c'est un instant après le Big Bang en fait. Ça a été fait en laboratoire. C'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que le temps est né, parce que qu'est-ce qu'il y avait avant ? Donc, le temps, on arrive à le... Nous, on le comprend, on a l'impression de le comprendre, mais en fait, on n'arrive pas à le saisir autant que le présent. En fait, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Et même dans la physique, c'est une question complètement fondamentale, en fait. Il y a peu de lois de physique qui permettent même de décrire le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? On l'utilise pour le mouvement, mais au final, ce n'est qu'une variable.
Pour la durée.
Et là, il ne fait pas apparaître quelque chose de irréversible en fait, dans le mouvement. Ce n'est pas ça. Le temps, en fait, on va aller chercher plutôt dans la thermodynamique. Si je pose une tasse de thé chaud sur la table, elle va se refroidir. Il y a en fait une homogénéité de la matière, une sorte d'équilibre qui va se faire entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Et là, on peut imaginer un peu ce qu'est le temps.
Le passage du temps qui fait changer les choses.
Exactement.
En fait.
Et il n'y aura surtout pas de retour en arrière. Ma tasse ne va pas se réchauffer.
Non. Sauf si je la mets au micro-ondes, hein, c'est ça.
Exactement. Et en fait, donc, il était excellent votre passage de
ce petit documentaire écrit par des physiciens justement sur le temps.
Parce qu'effectivement, l'état de l'univers au tout début du cosmos a changé. Il y a un moment où il n'y avait pas de temps. Et tout d'un coup, il y en avait un. Et en fait, des chercheurs là, de l'université d'Heidelberg, en Allemagne, ont réussi, eux, à rembobiner un peu l'univers pour ce moment qui a tout changé, à émettre une loi, en fait, sur ce changement de la matière qui pourrait expliquer comment le temps s'est mis en branle tout d'un coup. Pourquoi tout d'un coup la matière a changé, tout d'un coup c'est devenu quelque chose d'irréversible et comment la course du temps s'est mise en marche, en fait. C'est assez extraordinaire.
Après le Big Bang, quelques instants.
En fait, c'est ça
après le Big Bang, mais c'est pareil, les mots là sont très compliqués.
C'est extrêmement difficile à percevoir parce que, donc, après le Big Bang, on sait qu'il y a une sorte de plasma. En fait, il n'y a pas vraiment de particules ni de lumière. L'univers se dilate, mais il n'est agité que par une sorte d'écume quantique, un état de... étrange de matière et d'énergie où rien n'est irréversible encore. Ça, c'est juste après le Big Bang, c'est donc il y a environ 13,7 milliards d'années. Mais en fait, juste après, c'est-à-dire quelques instants, pour être exact, même 100 millièmes de milliardième de milliardième de milliardième de seconde, quelque chose se met en branle. Voilà. Les particules élémentaires naissent, ce sont des quarks et des gluons qui vont former bientôt les particules que nous connaissons comme les noyaux, les atomes, qui elles finiront par former la matière et les galaxies et les planètes. Et tout
avec
ça.
Le temps, enfin au fil du temps.
Exactement, au fil du temps. Donc quelque chose s'est passé. Là, tout d'un coup, la matière a complètement changé. En fait, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ces chercheurs de l'Université d'Allemagne, là, eux, ont réussi à reproduire un peu cet état de matière complètement étrange qui existait juste après le Big Bang et avant que le temps se mette en marche. Ils ont fait ça en refroidissant des noyaux d'atomes, 7000 pour être exact, dans une température proche du zéro absolu et en les immobilisant pendant 40 secondes. C'est un record. Et en fait, ça crée une sorte de fluide quasi parfait qui est similaire en quelques propriétés de cet état de l'univers primordial qui existait avant le temps. Et ils ont observé en fait cet état-là, ils ont pu l'observer et ils se sont rendus compte qu'il y avait une loi qui était fractale, c'est-à-dire que si on l'observait avec un microscope en zoomant, en dézoomant, on observait à peu près la même chose. Mmh. Et donc, en tout point, en tout endroit, en tout temps, la densité d'énergie était la même de ce truc-là.
C'est de la physique ou de la philo, là, que vous nous faites?
C'est à la limite des deux.
C'est ça, en fait, métaphysique.
Ça, c'est assez... Ah, c'est sûr qu'il faut extrapoler notre façon de penser pour imaginer quelque chose de semblable. Mais, en fait, cet état-là, et cette loi qu'ils ont trouvée, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas parfaite. C'est-à-dire qu'une irrégularité se met quelque part. Et
cette irrégularité, ça ne marche pas tout à fait. On n'en est pas au temps universel ou au début du temps. On n'en est pas là encore.
En fait, le temps va se créer par rapport à cette irrégularité.
Ah.
Cet état de gaz parfait dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, il va tout d'un coup changer un tout petit peu, jusqu'à ce qu'à un brusque moment, l'énergie lâche et on revient dans une sorte d'équilibre où la matière va se créer et le temps va se mettre en branle.
Fabuleuse question scientifique et métaphysique sur le temps pour remonter le film hein, de l'univers. Le temps en question dans Science et Vie de ce mois de janvier, dont nous avons aussi un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditeurs, sur RFI dans notre temps universel avec le groupe Trio Le Temps.
Le temps passe moins vite si on le regarde, si on l'invite, si avec égard on insiste pour qu'il prenne place dans nos vies. Le temps ne passe jamais lentement, tu t'en rends compte en vieillissant. Mais si tu le veux, à tout moment, il peut adoucir ton présent. Tu sais ce présent si rapide qu'on a poussé plus d'un au suicide, qui bouffe les protides et les lipides de nos vies bien trop vides. Vide du temps qu'on ne veut pas se donner pour mieux produire ou consommer, que l'on soit riche ou mal payé, le temps sait tous nous consumer. Time.
Version trio sur RFI en temps universel, bien sûr, autour de la question comment la science infuse et se diffuse des laboratoires jusque dans vos rédactions. Vous revenez dans la recherche, Philippe Pageot, sur les manipulations génétiques et surtout sur les dérives qui ont marqué l'année 2019. Le fameux CRISPR-Cas9, surnommé le couteau suisse de la génétique, a-t-il été surmédiatisé, encourageant les dérives, hein, comme celle du chercheur chinois He Jiankui, qui a annoncé haut et fort avoir utilisé ses ciseaux moléculaires sur des embryons humains, sans aucune validation scientifique, de quoi faire réagir jusqu'aux autorités chinoises, qui ont finalement condamné sans appel, et peut-être un peu rapidement, le créateur de ces bébés OGM à 3 ans de prison, rappel des faits sur notre antenne le 30 décembre, par notre correspondante à Pékin, Angélique Forget.
C'était avec beaucoup de fierté que He Jiankui avait présenté fin 2018 ses travaux. Le généticien s'était même exprimé à la télévision parlant d'une grande première et d'un exemple pour ce que l'on pourrait faire ensuite. Aujourd'hui, le tribunal de Shenzhen, dans le sud du pays, le reconnaît coupable de pratiques illégales et le condamne à 3 ans d'emprisonnement et près de 380 000 euros d'amende. L'agence de presse officielle Chine Nouvelle, qui a pu assister au procès, révèle que le tribunal lui reproche d'avoir cherché l'argent et la gloire et d'avoir ainsi violé la loi en matière de recherche scientifique. Avec cette condamnation, les autorités chinoises espèrent prouver leur bonne foi. Pékin assure n'avoir jamais donné son accord aux scientifiques pour qu'ils mènent ces travaux. Officiellement, la Chine, comme la plupart des autres pays du monde, interdit formellement les manipulations génétiques sur l'homme. À l'époque, de nombreux scientifiques estimaient que cette annonce risquait de nuire à la réputation de la science chinoise.
Notre correspondante à Pékin, Angélie Forget, sur RFI en décembre dernier. Philippe Pageot, comment éviter de telles dérives? Est-ce qu'on a surmédiatisé ces outils de modification du génome? Dans ce numéro de la recherche du mois de janvier, vous avez interrogé un spécialiste de l'ingénierie du génome, André Choulika.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une sorte de fièvre, la fièvre CRISPR, depuis que ces ciseaux génétiques ont été inventés par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, une Française et une Américaine. Il y a une sorte d'excitation qui s'est emparée du monde entier en disant en gros qu'on pouvait faire...
On pouvait tout faire. Le meilleur comme le pire, voilà. D'ailleurs.
Alors, donc, l'idée, c'est que effectivement, de ces outils génétiques, c'est de couper le génome à un endroit et remplacer un gène malade, par exemple, par un gène sain, pour guérir effectivement de nombreuses maladies. Alors, André Choulika, justement, remet un peu dans un contexte un peu plus général ces techniques d'édition génomique, en rappelant d'abord que c'est pas CRISPR qui a tout inventé, ça fait quand même 30 ans que ça existe, et qu'on essaye effectivement par d'autres techniques, avec des techniques d'enzymes, notamment il y a une enzyme qui s'appelle Thalène qui fait ça depuis assez longtemps, de faire de l'édition génomique. Donc CRISPR n'a rien inventé, et en plus, elle n'a pas fait de démonstration clinique que ça fonctionnait.
C'est pas la panacée, en fait. On lui prête trop, finalement, CRISPR.
Notamment, il y a un effet, ce qu'on appelle les effets hors-cible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des endroits où on coupe le génome alors qu'on ne voulait pas le couper. Et ces effets hors-cible sont assez mal maîtrisés, que ce soit pour CRISPR ou d'autres techniques.
Ça crée des dégâts collatéraux sur nos gènes.
Ce qui montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment... CRISPR est encore à l'état de la recherche. Donc, CRISPR, c'est un outil de plus, on va dire, dans une grosse boîte à outils de manipulation génétique. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance un peu à faire toujours du nouveau, à avoir des choses qui marchent mieux.
À s'emballer, comme dit Choulika,
ça lui fait penser un petit peu à Windows. On vous dit, bon, voilà, vous avez votre nouveau Windows qui va arriver, qui va être mieux, qui va avoir moins d'erreurs, moins de machin. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Donc il faut...
Surenchère, en fait, dans la recherche aussi, attention.
Surenchère dans la recherche. Récemment, il y a une autre technologie qui s'appelle Prime, qui a été présentée par David Liu à Harvard, qui est un peu sur le même principe, qui, au lieu de couper deux brins, comme le fait CRISPR, ne coupe qu'un brin. Mais il y a toujours, même s'il y a moins d'erreurs, reste toujours des erreurs. Donc les effets hors cible, c'est-à-dire ces découpages là où on ne veut pas, restent là. Et il y a un gros problème aussi qu'il faut mettre en avant, et qui, si on veut vraiment évoluer beaucoup, avoir des gros progrès dans ce domaine, il faudra améliorer ça, c'est ce qu'on appelle la vectorisation, c'est-à-dire le transport des éléments au niveau du gène dans les cellules qu'on veut faire. Et
pour l'instant, ça encore, c'est pas gagné.
Et ça, c'est pas encore gagné, c'est encore un gros problème.
Donc il faut de la patience, il faut pas s'emballer.
Il faut pas s'emballer.
Ni dans les craintes, ni dans les espoirs. Enfin, c'est un peu ça que dit
tout à fait.
Le chercheur André Choulika.
Alors lui, il croit très fort à l'édition de génome. Mm-hmm. Enfin, il a créé une société qui fait de l'édition génomique. Il croit très fort. Et forcément, un jour, on arrivera à des résultats. On commence à arriver à des résultats thérapeutiques. Pour la thérapie, ça commence à marcher. Il y a des efficacités pour, par exemple, éteindre un gène malade de 95% ou pour intégrer une séquence à un endroit à 70 à 80%. Donc, pour des effets thérapeutiques, on arrive à faire des choses. Mais pour arriver à 100%, on n'y est pas encore du tout. Et en revanche, évidemment, ce qu'on peut craindre, effectivement, c'est qu'on passe de la manipulation des cellules somatiques, des cellules pour guérir, à celles des cellules germinales, auquel cas ce sera...
Les embryons humains, et là, ce serait véritablement la catastrophe. Donc attention, les manipulations génétiques info ou intox, pour en savoir plus et pour comprendre, entretien avec le spécialiste André Choulika, spécialiste de l'ingénierie du génome, à lire dans la recherche où nous avons aussi et encore, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir, avis aux amateurs, à suivre l'orgasme féminin, oui, vous avez bien entendu, chers amis auditrices, un sujet introduit avec le charme qu'il faut par Donna Summer. Ah ouais, Love to Love You Baby sur RFI. When you're laying so close to me, there's no place I'd rather you be than with me. Spinning a spin. L'inimitable Donna Summer, Love to Love You Baby. Oui, mais comment et jusqu'où? C'est autour de la question de l'orgasme féminin, Thomas Cavaillé-Foll, que vous avez fait plancher votre journaliste à Sciences et Vie, Lise Barnet. Où alors? Alors, on sait d'où il vient, l'orgasme
Exactement,
féminin.
Exactement, c'est un mystère, en fait, l'orgasme féminin, ou c'était du moins un mystère pour les scientifiques, parce que contrairement à l'orgasme masculin, il n'est pas du tout utile pour la reproduction, par exemple. Alors que la production de sperme est liée à... l'envoi de sperme est lié à l'orgasme masculin. L'orgasme féminin, lui, ne semble pas avoir d'intérêt pour la reproduction et pas non plus pour l'attrait pour les relations sexuelles, vu que seulement une femme sur deux dit l'atteindre régulièrement avec un homme, je précise. Donc, au final, on se demande pourquoi... les chercheurs se demandent pourquoi comment il a bien pu apparaître. Et en fait, en observant des lapines sous Prozac en train de copuler.
Des lapines sous Prozac en train de copuler.
Tout à fait. Et en comparant la position du clitoris par rapport au conduit copulatoire de tous les mammifères, en fait, ils se sont rendus compte que probablement, à l'origine, l'orgasme était là pour stimuler justement l'ovulation. C'est-à-dire qu'il y a des espèces où c'est la relation sexuelle qui stimule l'ovulation chez la femelle.
Oui.
Et donc, peut-être que chez l'homme, pendant un moment, ou pas chez l'homme, mais dans notre histoire évolutive, c'était la même chose. Que l'orgasme fait cette...
Donc, l'orgasme, qui a toujours son utilité aujourd'hui, je pense que tout le monde le reconnaîtra, avait une utilité précise.
Voilà,
ça
avait une utilité
dans
précise.
Dans l'évolution.
Qui était de simuler donc, l'ovulation. Après, il a fallu probablement que ça disparaisse aussi, parce que si jamais on reproduit un acte sexuel et qu'on restimule alors, une ovulation alors que la dame est déjà enceinte... Ça risque aussi de créer des fausses couches, mine de rien. Si on refait une ovulation chez quelqu'un qui a déjà un œuf fécondé, en fait. Donc, ça a perdu ce premier sens obligatoire. Et maintenant, ça a sûrement un intérêt, bien sûr, social. En tout cas, pour favoriser aussi l'attirance sexuelle et l'apaisement et l'empathie, et les liens sociaux avec la personne en face de vous.
À vous de juger, chers amis auditrices et auditeurs. En tout cas, pour en savoir plus sur l'orgasme féminin et d'où vient-il, à lire et à pratiquer peut-être dans Science et Vie. Et maintenant, allez, on se calme un peu, peut-être avec vous, Carole Châtelain, quoique. Dans Science et Avenir, c'est un autre genre d'extase que sur lequel vous avez planché. Vous revenez sur les bienfaits, mais aussi sur les possibles méfaits ou contre-indications de la méditation.
Oui, tout à fait. C'est un dossier réalisé par notre journaliste Hélène Sander qui rappelle tous les bienfaits maintenant qui sont totalement avérés de la méditation sur le stress, sur la dépression, sur la focalisation de l'attention. Donc tout ça, c'est des choses maintenant qui sont établies. Les chercheurs sont d'accord, mais il y a aussi une nouveauté. C'est une chercheuse française, notamment du CNRS, qui s'appelle Raphaël Schex, qui a découvert que 8 heures de méditation, c'est-à-dire une journée de méditation, suffisait à modifier l'expression de nos gènes. C'est quand même une découverte absolument exceptionnelle.
Ouais, c'est beaucoup 8 heures de méditation, mais en même temps, ça a un effet immédiat.
C'est un effet immédiat, et notamment sur le vieillissement, les processus de vieillissement de nos cellules immunitaires. Notamment, ça en quelque sorte, ça éviterait un vieillissement trop rapide. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mm-hmm. Mais nous expliquons également que la méditation, c'est pas non plus la panacée, et qu'il peut y avoir des contre-indications, et que la méditation, c'est un peu comme un trip, il peut y avoir des bad trips, et y compris chez les méditants vraiment très, très exercés, notamment, on peut penser évidemment aux méditants bouddhistes, etc., qui connaissent ces bad trips. Et il y a des moments où on ne doit pas méditer, c'est notamment quand on est en crise de dépression, ou quand on a des problèmes vraiment aigus psychiques.
La méditation a de tels effets, elle les a dans tous les sens.
Elle les a parce qu'en fait, braquer les projecteurs sur soi quand on va mal, quand on est vraiment en crise, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Donc, nous rappelons un certain nombre de choses qui commencent aussi à être étudiées et qu'il est bon de savoir avant de se lancer à corps perdu dans la méditation.
À méditer, donc, dans Science et Avenir de ce mois de janvier, où l'on peut, aussi, d'ailleurs, dans un tout autre genre, et cette fois-ci dans la recherche, découvrir un entretien que vous a accordé Philippe Pageot, Catherine Cesarski, astrophysicienne, présidente du conseil d'administration du SCA, le Square Kilometer Array, le radiotélescope le plus grand international jamais construit, et qui en plus est réparti entre deux sites, Afrique du Sud et Australie. Pourquoi il va changer la donne? Qu'est-ce que vous a dit Catherine Cesarski?
Ça va être déjà... C'est pas nouveau. Donc l'idée de SCA est quand même déjà ancienne, parce que c'est dans les années 80 qu'on a commencé à y penser. Donc, faut voir que c'est quelque chose qui est à très longue échéance. C'est un truc énorme. Et la construction va débuter en 2021 et on va commencer à observer à fin des années 2020-2030. Donc, c'est vraiment le télescope qui va fonctionner toute la deuxième moitié, disons, du 21e siècle et qui est énorme par sa taille, par sa résolution, par sa sensibilité, par sa vitesse d'exécution. C'est qu'en fait, il va pouvoir faire des cartes du ciel dans le domaine radio à des vitesses extraordinaires, 60 à 100 fois plus vite que ce que faisaient auparavant tous les radiotélescopes. Donc ça va complètement être délirant.
Ça va changer quoi pour notre connaissance? On va pouvoir cartographier au plus près
C'est tous les domaines de l'astrophysique vont être concernés. Donc je ne vais pas vous donner un domaine en particulier. Il a été conçu, sa longueur d'onde a été conçue pour observer notamment l'arrêt de l'hydrogène à 21 cm, hein, qui est l'élément le plus abondant d'univers. Et également, quand on va par le passé, vous savez que l'univers est en expansion, du coup, ces traits, elle change de longueur d'onde. Et donc, il va pouvoir observer cet hydrogène de l'univers, faire des cartes de l'univers à toutes les époques. Avec donc deux sites dans des endroits avec très peu d'interférences radio, en Afrique du Sud et en Australie.
Et bien, vous nous en direz plus au cours de l'année, Philippe Pageot. En tout cas, c'est à lire cet entretien avec Catherine Cesarski sur SCA dans la recherche. On va terminer, aller sur la Lune carrément, avec vous, Philippe Hénarejo, dans Ciel et Espace, autour de l'inspirant programme lunaire chinois. À quoi peut-on s'attendre?
Oui, les Chinois sur la Lune, l'année 2020 pour martienne, mais elle sera aussi un lunaire, peu lunaire, hein, voilà. Parce que n'oublions pas que la Chine a un programme d'exploration de la Lune qui se poursuit. Actuellement, il y a son robot U2 qui continue d'arpenter la face cachée de la Lune. Et en décembre 2020, si tout va bien, et a priori tout va bien parce que les Chinois avaient un problème avec le lanceur censé lancer cette nouvelle sonde, c'est la Longue Marche 5. Il a été lancé récemment, il avait des problèmes, ça semble résolu, donc on peut s'attendre à un lancement en décembre 2020 de la sonde donc Chang'e 5, dont le but va être de se poser cette fois sur la face visible et de ramasser des roches lunaires et de les ramener sur Terre, comme l'avaient fait les Soviétiques de manière automatique dans les années 70. Et cette fois, ce ne sera pas quelques grammes ou quelques centaines de grammes, ce sera jusqu'à 2 kilos de roches lunaires. Alors, ça peut sembler être un aboutissement, mais c'est que le début. Il y aura une série de sondes comme ça jusqu'à Chang'e 8, prévue pour l'année 2027. Ça peut-être glisser. Et qui sera celle-là consacrée à justement préparer l'arrivée d'astronautes
sur la Lune.
Donc on verra qui des Américains ou des Chinois sont le plus près de poser leurs pieds sur la Lune.
À lire dans Ciel et Espace, compétition sur la Lune entre Chinois et Américains. Merci Philippe Hénarejos, merci Carole Châtelain, merci Philippe Pageot et merci Thomas Cavaillé-Foll. On se retrouve le mois prochain autour de vos magazines respectifs, Ciel et Espace, La Recherche, Science et Avenir, Science et Vie, magazine dont nous avons encore quelques exemplaires à vous faire gagner, amis auditeurs. Ils sont pour vous si vous nous les demandez par mail ou par sur nos pages Facebook, en précisant bien votre adresse postale. À bon entendeur. Autour de la question, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous podcaster sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Au plaisir de vous retrouver lundi avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, restez curieux et surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, ici sur Terre comme dans l'espace. C'est bientôt les infos sur RFI.
7 milliards de voisins.